Extraordinaire. Bien. Ouais, l'amour, il a plein de dimensions de profondeur. Il y a une dimension d'absolue, d'éternité. D'accord ? Il y a une dimension contemplative. D'accord ? Et justement, à partir du moment où je dis que l'homme trouve son unité, son identité, sa substance, son origine et sa fin uniquement dans cette dimension, en niant les autres dimensions, eh bien finalement, j'enlève les degrés de profondeur correspondants. Donc l'amour le plus profond, ce qui est lié à l'éternité, disparaît. L'amour contemplatif disparaît, l'amour spirituel. L'amour, etc. Et finalement, je me ramène à quoi ? À la libido. En voulant exalter une des dimensions de l'homme, eh bien finalement, je rentre dans une lecture explicative de tous mes problèmes qui réduit l'homme à ce qu'il y a de plus sommaire en lui. L'air de rien, même dans la dimension que je veux exalter. Et c'est ça les sept idéologies. Bon, je vous rappelle les différentes idéologies. Du point de vue de l'art, il n'y a que l'art qui compte. C'est Nietzsche. Nietzsche. Alors, s'il vous plaît, ne me parlez pas d'amour, c'est de l'aliénation. Ne me parlez pas de dépendance dans l'ordre de l'absolu, c'est de la réactivité. Ne me parlez pas de contemplation, alors là, c'est de l'aliénation mentale, comment est-ce qu'il appelle ça, vous savez, il faut dépasser ça, en tout cas, par le point de vue du sur-moi. Donc, il reste plus... Vous voyez, c'est extraordinaire, cette histoire de Nietzsche. Nietzsche, c'est vraiment... C'est la toute-puissance. Si tu es un sur-homme, d'ailleurs, on a fait des films là-dessus, vous savez, cette espèce de militaire qui part là-bas au Vietnam pour détruire... Non. Oui, ben Rambo, il y a un côté Rambo, il y a un côté Nietzschéen dans Rambo, c'est évident. Quand vous regardez par exemple le film de Demolition Man, hein, vous l'avez tous vu, je suppose, Demolition Man, avec ce... Oui, bon, ben, vous connaissez pas, je vais pas vous raconter le film de Demolition Man. C'est pas... Putain. Demolition Man, c'est formidable ce film. Enfin, quand je dis c'est formidable, il est très, très instructif. Je l'ai regardé parce que mes neveux m'ont dit, quand j'étais aux 70 ans de ma mère, « Oh, oncle Patrick, il faut absolument que vous regardiez Demolition Man. » Je dis « Parce que ça, vraiment, ça va vous intéresser. » Je dis « Ah bon ? » ?»« Et c'est qui, c'est quoi ?»« Ah, c'est Rambo. Ah, bon. » Bah, oui. Alors, donc, Rambo est en train de c'est un... Rambo est un flic qui fait une erreur judiciaire. D'accord ? Donc pour le punir, le film a été fait tourner en 90 ou 12, je ne sais plus. Pour le punir, on l'anéantit. Je veux dire, on ne l'anéantit pas, on le met dans une espèce de prison, c'est-à-dire on le glace, on le cryogénise. On le cryogénise et on le met au congélateur, n'est-ce pas ? En 2036, on le réveille. On le réveille avec un autre criminel qu'il avait poursuivi. On le réveille pourquoi ? Parce que, justement, ce criminel qu'on avait décongelé est en train de faire des... Et qu'est-ce qui se passe en 2036 ? Il y a un espèce de sage qui prend toute la cité, le sage qui prend toute la cité humaine, et tous sont manipulés parce qu'ils ont un mesh-vlock. Mesh-vlock. Vous ne saviez pas ça ? Mesh-vlock. C'est des initiales. Un mesh-vlock, c'est-à-dire un implant dans la main, qui est un implant bioélectronique. Ne rigolez pas avec ça, parce que c'est au point. Bon. Un mesh-vlock. Et ils sont donc... mais, alors, on ne se touche pas, hein. C'est paix et sérénité. Paix et sérénité. On ne se touche pas, parce que... Mais on s'aime. Ah, tout on s'aime. Et alors, dès que quelqu'un dit un gros mot, là, on va dire Rambo. Hein. Ça, c'est un truc qui sort du mur. Vous n'avez pas le droit de dire non, vous avez une amende. Elle me dit, mais moi, je voudrais savoir où il y a du papier cabinet. Je dis, mais pas absolument des cabinets. Ah ben non, mais oh, vous ne savez pas vous servir des coquillages. Oh, paix et sérénité. Paix et sérénité. Si, mais je n'en ai à foutre de coquillages. Mais je n'en ai rien à foutre de ce bordel de truc. Ah, vous avez une amende, vous avez interrompu le code de droit de bien-être, etc. Ah, il voit un papier qui sort. Il dit, merde, connard. Il ressort le papier, il va au cabinet. C'est que des trucs comme ça. Ils ne m'ont pas fait voir pour ça. Mais il y a cette société aseptisée, pas de relations physiques, la paix, l'amour, la solidarité, la maîtrise. On est méprisé. Pas d'argent, puisqu'on paye avec la carte bancaire qui est dans le mesh bloc, dans l'implant. On passe avec la main, donc tu rentres chez toi, tu n'as pas de voleur, rien. Ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Donc le mari et la femme n'ont pas de relation même corporelle, c'est uniquement virtuel. C'est virtuel, c'est virtuel. Etc, etc. Bon, et puis en même temps, il y a des gens qui ont refusé de recevoir le mesh bloc. Et ils vivent dans les égouts en bas. Ils vivent dans... Vous voyez ? Et alors eux, ce qu'ils veulent, c'est vivre. C'est prendre de l'alcool et puis pouvoir dire s'il le faut, n'est-ce pas ? Et puis, etc. Donc il y a deux sociétés, une société pourrie qui vit dans le truc, qui disent, qui mettent des tags, etc., quand ils peuvent, etc. Et puis la société aseptisée qui est dominée par le sage. Et Rimbaud arrive et détruit le système tout entier et il réconcilie ceux qui sont dans les égouts et ceux qui sont en haut dans une nouvelle liberté. C'est extraordinaire. Un film extraordinaire, extraordinaire. Ça, c'est le surhomme, vous voyez, Nietzsche. Le surhomme. Vous voyez, il vient se battre contre l'antichrist, vous voyez, qui aseptise dans la lumière, la solidarité, l'amour, la tolérance, etc. Le fait que tout marche bien, il réconcilie ça avec ceux qui vivent dans la recherche de la liberté immédiate, quoi. Il les réconcilie tous les deux. Et tout de suite, il crée quelque chose de nouveau. Parce qu'il est lui-même, j'allais dire, le surhomme et la volonté de puissance qui est la sienne, est au-dessus de tout. C'est Nietzsche. Ça, c'est le chêne, vous voyez, c'est celui qui fait du bien, vous voyez. C'est ça, le bien. Et ça, dans le schéma, j'allais dire, de l'adolescent, des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est évidemment, c'est Schwarzenegger, Rambo, tout ça, c'est évident. On voit plus tard, il est super, ce mec, quand même, hein. C'est une espèce de Christ. Bon, Nietzsche, vous voyez, il n'y a que l'art. Alors, à ce moment-là, bon, non, c'est lui qui est source. C'est lui, le surhomme. C'est pas Dieu. Tout dépend. Vous voyez, la dimension communautaire, mais c'est lui qui change la communauté. Vous voyez, qui la met dans le milieu. Mais la dimension du corps, enfin, la dimension de la nature, plus rien n'existe. Alors là, il faut voir. Pas un seul arbre dans le film. Hein. Pas un oiseau. Hein. Les étoiles, ben, n'existent pas. Il y a la cité. C'est ce que disait Nietzsche. Hein. Transformer l'humanité en urbanité et le surhomme apparaîtra pour dominer tout. Pas de vie intérieure, bien sûr. Alors la contemplation, je rigole. Et là, moi, c'est même pas la peine d'en parler. Donc, vous voyez, Nietzsche, là, Nietzsche. Et ça, on est imbibé par ça. On est imbibé par ça. Imbibé. Ah, eh bien oui, alors oui, mais il faut quand même... Alors oui, mais la nature, ça existe, si on veut savoir la vérité sur la nature. Hein, de manière quelque chose d'imparable, vous voyez. Si tout le monde raconte même en n'importe quoi, que autant avoir la vérité sur la nature. Hein. Bon, très bien. Ah, bon, alors, comment savoir un petit peu la vérité sur les processus qui fait que la nature est nature. Parce que ça s'est passé, ça c'est naturel, ça c'est pas naturel. Ah ben la seule vérité qui soit acceptable, c'est la science. Hein. Positivisme. Le positivisme, ici. Il n'y a que la lecture scientifique, matérielle et quantitative. La quantité, c'est lié au corps. Hein. De la réalité de l'homme qui soit source de l'unique source de vérité. L'appréhension par la science. Il n'y a que la science qui donne la vérité. Vous voyez ? Il n'y a que le point de vue le plus élémentaire de la matière qui donne la vérité. Ah ben, mais on a une vie contemplative. Attends, t'as une preuve scientifique ? Ah non, non. Ah non, vie contemplative, je suis désolé, pas au microscope. C'est pas au microscope. Ah si, on fait de la vie contemplative, on regarde un scannerise maintenant les trucs, on voit les zones du cerveau qui s'animent, vert, violet, machin, machin. Ah ! Et alors là, ici, quand le cerveau intérieur devient violet, jaune, jaune, ça veut dire que t'es contemplatif. Imbécile. Alors là, je commence à accepter. Imbécile. Le positivisme, c'est incroyable, le positivisme. Aucune vérité, vous voyez, le sanctuaire. Alors, ça y est, revue Nature. Allez, ça y est, les trois laboratoires de Hudson en Arizona, de Zurich en Suisse et de Londres avec ce professeur extraordinaire, falsificateur. Ah, ah, le sanctuaire est un faux. Nous avons la preuve scientifique. La preuve scientifique. Voilà où on en vient à manipuler les masses. Il y a eu une interversion des linges dans les capsules. Ils se sont mis d'accord dans les trois laboratoires. Ils pourraient étouffer la Terre. Bon, je préfère pas en parler, ça m'énerve. Toutes les idéologies, pour pouvoir convaincre l'universalité des hommes lorsqu'elles sont coincées, sont capables des mensonges les plus invraisemblables. Vous savez bien que le sensuaire, scientifiquement, est comme un signe accablant de la fulguration d'un corps qui fulgure dans un temps qui a été calculé, avec une fulguration dont on a calculé l'intensité de lumière et de feu, dont on connaît la date, et de manière isotopique dans tout le corps. Et de manière accablante, certaine. Je sais pas, bon. Peu importe, je m'en fiche du Saint-Sphère, c'est pas ça. Ce que je regarde, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idéologie? Ah, alors le matérialisme dialectique. Cette espèce, le matérialisme dialectique. Ce matérialisme dialectique qui fait que la communauté humaine doit être prise par la plus-value. Vous voyez? C'est la base du marxisme. Et c'est ce qui est en train, c'est ici que domine le point de vue du nouvel ordre mondial international. C'est une idéologie marxiste qui est derrière. C'est la fameuse tête du dragon, vous voyez, qui a été blessée à mort, comme le dit l'Apocalypse, et qui reprend vie. Mais c'est sous le visage américain. Avec un gypsies. C'est beaucoup mieux. Oh, matérialisme dialectique. Oh, votez pour moi. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme si la vie communautaire, vous voyez, était à base, comme si la vie, la coopération entre les hommes, comme si la vie communautaire, cette espèce de corps mystique, était sur base. C'est marrant, c'est toujours à base économique, là encore. L'aspect le plus sommaire, parce que je mets toutes mes billes là-dessus, mais comme je nie les autres dimensions, c'est toujours l'aspect le plus sommaire de la vie communautaire qui doit primer sur tout. C'est extraordinaire, ça. Comprendre que ces idéologies, c'est pas seulement intellectuel. Vous comprenez? Le matérialisme dialectique, Engels, Marx, si vous voulez, Lénine, mais aussi tous les idéologues américains, je veux dire, hein, Malthus. C'est ça, c'est fondamentalement athée. Et ça a des répercussions considérables sur tous les instants, toutes les dimensions de notre vie humaine, sociale. Il faut saisir ça. Vous comprenez pourquoi la recherche de l'un est quelque chose de capital, parce qu'il faut qu'on trouve notre autonomie par rapport à ça. Et qu'on puisse faire tomber toutes ces feuilles. Et qu'on puisse faire du feu. Quels sont, ici, par rapport... l'âme, ah oui, la vie, ah, bon d'accord, non, l'être, non, m'embêtez pas avec la création, hein, l'évolutionniste, hein. M'embêtez pas avec la création, hein. On descend du singe, point la ligne, ne faites pas, on descend du singe et puis c'est tout, hein. Il y a eu la preuve, c'est la Kant, hein. Oh, il y a Lucie, donc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait que c'est faux, biologiquement, génétiquement, paléontologiquement, tout le monde sait que c'est faux. On continue à l'enseigner aux gosses à l'école. Parce que c'est une idéologie. C'est une philosophie, crochet, voyez. Darwin, tout. Darwin, c'est par rapport à l'évolutionnisme historique, mais enfin, quel est le principe ici de cette idéologie? C'est que... ce qu'il y a de plus fort, c'est pas la libido, ce qu'il y a de plus pur, ce qu'il y a de plus central, ce qu'il y a de plus un en nous, c'est la vie. La vie, c'est sacré. À chaque fois que vous dites la vie c'est sacré, vous êtes dans, c'est une proposition d'athéisme. Quelqu'un qui dit la vie c'est sacré, il fait une profession de foi athée. La vie n'est pas sacrée. La preuve, je prends une fleur, je respire, j'ai enlevé la vie à la fleur, et j'ai pas fait un sacrilège. La vie n'est pas sacrée. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Petite réflexion alors sur l'embrouillamini, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes. Pour essayer de trouver justement toutes ces expériences d'unité qui sont en nous et de voir que l'unité de la personne, l'unité de l'homme, n'est pas dans ces expériences. L'un est évidemment plus central que ces expériences de rassemblement, si vous voulez. L'un, c'est évidemment plus encore que l'unité. Que l'unité, c'est ce par quoi l'un est un. L'unité, oui. Et donc, l'un est encore en dessous. Donc, vous voyez, on va essayer petit à petit de faire une démarche descendante. Donc, notre démarche descendante, elle est là. On a commencé à la faire, je ne sais plus. Donc, nous avons vu donc le point de vue donc, de l'art, le point de vue donc, du matérialisme dialectique. Le positivisme, l'évolutionnisme, la philosophie analytique, du côté de la vie contemplative, l'intelligence. Alors, quelle est la tête du dragon là, qui est là, qui fait qu'au lieu d'être intelligent dans la pointe même de l'intelligence humaine, dans la partie où l'intelligence humaine dépasse l'ordinateur, si vous voulez, là où c'est humain, quoi. On est contemplatif, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est que cette intelligence contemplative? L'intelligence contemplative, elle consiste à saisir en nous le lieu où on est capable de chercher, certes, la vérité. Ça, c'est toute l'intelligence qui est cette capacité d'ouverture, de recherche lumineuse. Enfin, on est disponible pour la recherche de la vérité, hein. On est mobilisé pour la recherche de la vérité, on va coopérer à la recherche de la vérité, on va travailler à la recherche de la vérité, on va faire... Et à un moment donné, on va contempler dans une réalité ce qu'elle a de vrai, mais voyez, profondément, métaphysiquement. Dans sa racine substantielle, comme on dit, vous voyez, et actuelle. Alors à ce moment-là, on est comme saisi par la vérité. À un moment donné, quand on est saisi par la vérité, c'est comme une nourriture, on l'assimile. La contemplation est une capacité d'accueil de quelque chose qui illumine de manière solide et qui nourrit. Notre intelligence se nourrit. Tandis que l'amour, c'est nous sortons vers l'autre, tandis que dans la vérité, dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui rend cette capacité d'accueillir l'autre dans sa substance. Non pas son aspect un petit peu périphérique, son aura, ouais, mais c'est la vérité de la personne que je saisis, que je suis capable de recevoir. C'est la capacité d'accueil qui est en nous, l'intelligence contemplative. La capacité d'accueil spirituel de l'autre, de manière à le porter en nous, tout en le respectant. Tout en le respectant. Ça, c'est la contemplation, vous voyez? Alors, ça veut dire que je prends ce qu'il y a. Je prends en lui ce qu'il y a de subsistance, ce qu'il y a d'actuel, ce qu'il y a de vrai en permanence, ce qu'il y a de parfait du point de vue de la vie, ce qu'il y a en lui d'unité, de bonté, de vérité, d'actuation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est ça que je reçois, c'est ça que j'accueille. C'est ça qui me nourrit. L'intelligence se nourrit de l'être. De l'être des choses. L'intelligence ne peut pas se nourrir de trucs qui sont parallèles, qui sont périphériques, qui sont partiels. Elle se nourrit de la substance. Elle se nourrit du point de vue de l'être. Et quand c'est effectivement quelque chose qui relève de la substance, soit dans une personne humaine, soit dans une réalité de vérité, soit dans une vérité toute pure, parce que c'est la substance même qui est découverte, contemplée, accueillie et reçue, tout est mobilisé en nous. Ça c'est sûr, l'expérience, alors ça, qu'est-ce que vous voulez, on en fait l'expérience ou on n'en fait pas l'expérience, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont jamais fait une expérience de vie contemplative, hein. Ils ne savent pas. L'immense majorité. Hein. Alors du coup ils disent ça n'existe pas, c'est embêtant. On fait donc un jugement d'existence, hein, pour essayer de comprendre dans quelle direction il faut aller, je vais faire un jugement d'existence. Le monde, l'univers dans lequel je suis, existe. Vous ne pouvez pas recevoir le monde en vous. Vous ne pouvez pas accueillir le monde, mais l'existence de ce monde, vous pouvez la porter en vous par la vie contemplative. Et lorsque l'existence de ce monde que vous constatez, sur lequel vous faites un jugement d'existence, pour la contempler, eh bien si vraiment vous exercez à cette intelligence de la substance même des choses que vous contemplez, vous allez voir que tout est mobilisé en vous. Et à ce moment-là, vous respectez parce que vous n'avez pas une vision de l'autre, de cette réalité que vous contemplez, qui la déforme. En ne contemplant que les accidents, c'est-à-dire que les choses secondaires. Et c'est pourquoi la vie contemplative prend ce qu'il y a de subsistant, d'actuel, de métaphysique dans l'autre, voyez ? C'est de recevoir positivement, de manière contemplative, l'autre tel qu'il est, et de le porter en nous. C'est l'intelligence qui fait ça. Ça, c'est ce que fait un contemplatif, voyez. Quelquefois, il y a certaines personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se contemplent pas elles-mêmes, et quand elles ont affaire à un contemplatif, le contemplatif perçoit en eux quelque chose qui dépasse la personne elle-même, vous voyez. Alors, elle est complètement perdue, parce qu'elle a l'impression que ça devait être l'impression que devaient avoir les gens quand ils rencontraient Jésus, vous voyez. Ils ne se connaissaient pas eux-mêmes, mais Jésus les contemplait. Jésus ne jamais jugé personne. Mais Jésus contemple. C'est le Verbe. Alors il contemple, il nous porte dans sa contemplation. Il nous contemple. Et c'est positif, vous voyez. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune négation, il y a un respect total, vous voyez. Cette espèce de respect du contemplatif vis-à-vis de l'autre, et en même temps il le porte en lui, il l'accueille. Et l'autre est désemparé parce qu'il perçoit bien qu'il est finalement plus présent à celui qui le contemple qu'il n'est présent lui-même à lui-même. Alors du coup, il trouve ça dur. C'est pour ça que les apôtres disent « ces paroles sont dures ». Qui peut les accepter ? Mais Jésus n'est pas dur. Jésus n'est pas dur. Jésus, c'est un contemplatif. Alors, quand on veut faire une idéologie en disant, mais voilà, c'est l'intelligence qui saisit la vérité, qui est la dimension unique de la dignité humaine. C'est ça qui est, j'allais dire, divin dans l'homme. C'est ça qui est absolu dans l'homme. Alors à ce moment-là, ça va donner l'idéologie, une idéologie qui est, au fond, Hegel. Moi, j'aime bien dire Hegel. En fait, c'est le néo-hegelianisme. Mais c'est, oui, vous voyez, c'est quelque chose qui va du côté de l'épure de l'intelligence. Or, pour aller du côté de l'épure de l'intelligence, il faut que j'arrive à formaliser. Bon, là, je m'excuse, c'est un petit peu compliqué, mais je vais le dire de manière plus simple. Je traduis pour les vaches que nous sommes, n'est-ce pas ? On est un peu des vaches. Alors, vous voyez, au lieu de recevoir et de contempler l'autre, si je veux si je veux posséder l'autre, vous voyez, je ne veux pas accueillir l'autre, je vais le posséder. Je vais le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut que je vois d'abord l'extérieur. Alors, il faut nier l'extérieur. Oui. Je vois d'abord, ensuite, voyez, je vais procéder. La connaissance procède par le primat de la négation. Je vais enlever plein de trucs. Mais non, c'est pas ça la vérité. Pour atteindre la vérité, il faut commencer par la négation, en disant, voyons ce qui n'est pas la vérité. Ça, c'est Hegel, vous voyez. Donc mais ça, c'est un mode de la via negativa, la voie négative, est une voie, le primat de l'intelligence par la via negativa, c'est le primat d'une intelligence ordinateur. C'est binaire, vous voyez. Non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. C'est comme ça qu'on devient intelligent. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Bon, vous allez dans les discussions. Il y a un type qui a fait des études, qui est universitaire, qui est extraordinaire, qui parle bien, qui dit, qui parle à la télé, tout ça. Donc, vraiment, il est balèze dans son truc. Hein, il touche ça. Hein, il touche bien, je veux dire. Hein. Et puis vous êtes dans le salon. Et puis, à un moment donné, vous le coincez. Vous le coincez. Non, c'est là ce que vous dites, là, vraiment, je ne suis absolument pas d'accord. Parce que comment est-ce que vous pouvez affirmer ça alors qu'il y a ça, ça et ça? Donc ce que vous dites, ce n'est pas juste. Tout le monde s'écrase dans le salon en disant, celui-là, qu'est-ce qu'il est intelligent? Et il l'a mouché. Vous voyez? L'intelligence se mesure au primat de la négation. C'est la critique. Si tu critiques, plus tu es capable de critiquer, plus tu es intelligent. De sorte que quand je prends l'idéologie, si vous voulez, du primat de l'intelligence, que je tombe dans le néo-hegélianisme, voyez, je tombe dans l'épure. Plus je nie, il ne me restera plus que l'unité mathématique subsistante. Brunswick. Le grand, c'est Brunswick. Hein. C'est extraordinaire. Et cette primat, vous voyez, on a ça, dit. Il touche, là, t'as vu? Il a su voir le point à dégager. Mais c'est le contraire de la vie contemplative. La vie contemplative consiste, c'est toujours le primat de la substance, le primat de l'acte, le primat de l'énergeia sur l'antelekeia, vous voyez? C'est le primat, c'est je reçois l'autre, je ne le nie pas, je ne le passe pas au crible du bazooka pour voir ce qui reste. Hein, je tire dessus, je vois ce qui reste. C'est ça l'intelligence. Voyez. Donc, il faut d'abord détruire tout ce qu'il a voyez, pour voir ce qui reste dans une vérité. C'est le contraire de l'appréhension et de la recherche de la vérité, ça. C'est extraordinaire comme l'idéologie, vous voyez, néo-hegélienne. On est imbibé de ça. On est tous imbibés de ça. D'ailleurs, vous passez pas vos examens à l'université. Hein. Vous n'avez pas la moyenne, hein, si vous n'avez pas cette structure. Vous n'avez pas la moyenne. Donc, coup de chapeau à ceux qui n'ont pas leur bac. C'est ça? Mais oui, absolument. Donc, vous voyez, donc c'est mes sept têtes qui sont là. Ah, il y a la dépendance. Je suis dans un état de dépendance. Ah, oui, la dimension de liberté absolue dans l'homme, voilà. La chose importante, laissez-moi tomber tout le reste, là, tout ce truc-là, là, de préférence d'ailleurs au point de vue spirituel, bien entendu. Donc, supprimez-moi donc l'intelligence, la vie contemplative, supprimez-moi le respect, hein, la volonté de l'autre, l'amour que l'autre m'attire, n'est-ce pas, et me transforme, et puis qu'intérieurement, il y ait cette espèce de très grande intériorité, hein, cette très grande intériorité qui fait que je suis en lien avec la nature tout entière. Et que du coup, je coopère à l'existence des choses. Et je rentre, donc, laissons tout ça, ne gardons qu'une seule chose, c'est cette dimension, au fond, sacrée, religieuse de l'homme. L'homme, c'est sacré. L'homme, c'est sacré. L'homme, c'est sacré. Ah, si vous voulez mettre un nom sur cette idéologie-là, c'est Sartre. L'existentialisme. Mais il n'y a pas que Sartre, toute la phénoménologie... Il y a même des chrétiens hein, qui sont dans cette direction. Il y a un chrétien très connu qui a mélangé un petit peu le communautaire et le religieux. C'est Mounier, vous savez. Personnalisme communautaire. Bon, mais peu importe, Sartre, c'est quoi? C'est de dire, mais oui, ce qui est divin dans l'homme, c'est pas la vie contemplative, c'est pas d'être, de vivre de l'amour par rapport à un autre, c'est pas... Non, ce qui est extraordinaire, c'est la liberté absolue. C'est la liberté, on est libre. C'est ça ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. C'est ça qui est divin dans l'homme. L'homme est le seul qui soit vraiment libre. Il existe. C'est l'existentialisme. Ce par quoi l'existence est existence, c'est la liberté. C'est la liberté. Alors oui, tout à fait. Je suis un en-soi. Et puis, il y a le pour-soi, l'en-soi. Enfin, je m'excuse, je ne veux pas rentrer dans Sartre. Le résultat, c'est qu'évidemment, le problème, c'est que, du coup, je suis moi-même en dépendance par rapport à ce que je dois réaliser dans ma liberté absolue. Vous voyez ? Puisqu'il n'y a plus de point de vue spirituel, donc je ne peux plus atteindre une vérité autre que moi-même. La vérité absolue, c'est pas Dieu, c'est ma propre liberté, et je suis sous la dépendance de cette liberté absolue qui me crée. Donc il faut que je rejoigne cette liberté absolue qui me crée, et que je nie ce qui est pour moi, pour entrer dans l'en-soi qui est ma liberté. Et donc pour ça, il faut que j'arrive à tuer en moi tout ce qui m'empêche d'être dans l'hypostase de ma liberté absolue définitive. C'est pour ça que pour Sartre, le suicide était l'acte de liberté le plus divin que l'homme puisse faire. Parce qu'il nie en faisant ça. Vous voyez, il est libre par rapport à lui-même. Donc en le niant totalement, il prouve qu'il est au-dessus et que tout ce qu'il est actuellement est en dépendance avec son hypostase qui demeure sa liberté absolue d'homme. C'est pour ça que les disciples de Sartre se sont suicidés. Mais lui, il ne s'est pas suicidé. Hein. L'existentialisme, c'est terrible, l'existentialisme. C'est pour ça qu'il dit l'enfer, c'est les autres, parce que tu t'entraînes. Avant de te suicider, il faut d'abord que tu t'entraînes. Il faut d'abord que tu arrives à, dans ta liberté absolue, à avoir ton regard, le regard que tu portes dans ta liberté d'homme sur l'autre, est tel que du coup, il est transformé. Il est transformé dans ce que tu veux. Or, ce que tu veux, c'est détruire tout ce qui n'est pas divin, donc ta liberté, et donc tu vas nier ce que l'autre est. Et c'est pourquoi l'enfer, c'est les autres, parce que le regard de l'autre te détruit. Les mouches de Sartre. Et on est imbibé de ça. Et si vous voulez savoir la petite phrase qu'on répète tout le temps, pour savoir si on est existentialiste, c'est-à-dire si on est athée, c'est de dire, écoute, lâche-moi les baskets, je suis libre. Je suis libre, quoi. Mais enfin, maman, je suis libre. C'est par rapport à maman, c'est par rapport à papa, c'est par rapport au pape. Hein. Mais enfin, je suis libre. Qu'est-ce qui... Lâche-moi les baskets, papa. Le pape, je veux dire. C'est notre société complètement existentialiste, hein. Regardez comment elle réagit par rapport au pape, qui dit des choses qui sont dans le bon sens, le pape. Des choses qui sont dans un bon sens incroyable. Ne tuez pas votre papa, votre père, votre mère, même s'ils sont vieux. Ouais, mais qui nous laisse libre, celui-là, qu'est-ce que c'est que ça? Rétrograde, ringard, machin, qui nous laisse libre, on est libre. Ah ben, ne tuez pas le gosse quand même, ne tuez pas l'enfant, ne tuez pas l'enfant. C'est, vous avez été un enfant vous-même, je veux dire, ne le tuez pas. Mais ne tuez pas votre prochain, enfin, si vous lui transmettez une main, ne le tuez pas. Oh, l'enfant est libre, non ? La liberté de toute société. L'existentialisme de notre société, on est envahi, voyez ? Mais il faut repérer pourquoi. C'est pas parce que les gens sont méchants, c'est parce que dans leur tête, depuis la maternelle, depuis la télé, depuis machin, ils sont, il n'y a que ça, il n'y a plus que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Impossible. S'il y en a un d'entre vous qui me dit, chez nous on réfléchit autrement comme ça, qui vient de me trouver, c'est l'exception mondiale de notre génération. Et donc, aujourd'hui, il est donc très nécessaire de prendre conscience de ce que sont ces sept idéologies athées, qui sont toutes des fausses idéologies, parce que, en voulant magnifier une des dimensions de l'homme, elle tronque non seulement toutes les autres, mais en plus elle tronque la dimension elle-même qu'elle veut magnifier. Et elle la rend monstrueuse. Et lorsque toutes les idéologies se rassemblent pour faire un seul bloc, et qu'après, on va rassembler, par exemple, Lénine, c'est le rassemblement entre le matérialisme dialectique et le positivisme. Lorsque le positivisme d'Auguste Comte vient se mêler au matérialisme dialectique, ça donne le léninisme. Lorsque je vais rassembler le freudisme, Freud, avec le marxisme, matérialisme dialectique, ça donne Friedman, Reich. Ça donne 68, si vous préférez. Bon, lorsque vous rassemblez, etc., vous continuez comme ça. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une génération post-idéologique, donc on est dans une génération post-idéologique, où non seulement il y a eu des mix comme ça entre les idéologies, mais en plus, maintenant, on revient à un phénomène, j'allais dire, idéologique, où tout est pris, j'allais dire, dans un seul corpus idéologique. Et tout se ramène finalement. Et toutes ces idéologies se réconcilient. Le marxisme est réconcilié avec le libéralisme, vous voyez. C'est ça, le nouvel âge, c'est ça, la mafia, compagnie. Je veux dire. Tout ça, au niveau pratique, toutes les idéologies se réconcilient, vous voyez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On est là. Pour l'instant, on en est là. Donc, quelque part, il y a l'unification idéologique qui se fait. Voilà ce que le Saint-Père a dit. Nous sommes la génération qui doit affronter la bête unifiée de l'Apocalypse. Et il dit ça en disant, attention, c'est un phénomène philosophique, c'est un phénomène idéologique qui fait qu'il y a une aliénation de l'intelligence et que les gens, du coup, ne peuvent plus être humains. Ah, ça y est, vous commencez à comprendre pourquoi l'Église dit bon, on ne va pas proclamer l'évangile, la grâce sanctifiante, la foi, l'espérance, les dons du Saint-Esprit, ça passe sur la tête des gens comme l'eau sur les plumes du canard. Pourquoi? Parce que, justement, l'intelligence ne marche plus, est bouchée. Le cœur ne marche plus, coincé. L'intériorité ne fonctionne plus, il n'y a plus d'intériorité. Le corps, alors n'en parlons pas. Alors tu as beau parler, des choses qui dépassent le point de vue de la nature, puisque la nature elle-même s'est ramassée dans un repli systématique sur soi, voyez, et bien du coup, le kérigme de l'Église ne pénètre plus, parce que la bénédiction de Dieu ne peut pas venir dans un monstre, elle peut venir que dans un homme debout. D'où la nécessité pour les chrétiens, que nous sommes, j'espère, de faire de la philosophie d'être des hommes debout. Donc d'être lucide sur le degré de pénétration de ces idéologies en nous. Qu'il y ait au moins une intention de rectification par la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que nous faisons donc cette recherche, voyez, surtout, alors ça devient capital de faire ça aujourd'hui. Capital. Même si on ne comprend pas tout, ça n'a pas grande importance. Il ne s'agit pas de tout comprendre, on n'est pas hegéliens, nous, hein. Hegel, c'est un espèce d'énorme bois. Il comprend tout. Une intelligence géniale. Daimon. Il ne s'agit pas de tout comprendre. Il s'agit de saisir quelque chose. Ah, on saisit quelque chose. On saisit que, mais oui, je ne m'étais pas réveillé là-dessus. Je ne m'étais pas réveillé. Du point de vue du cœur, tiens, je ne m'étais pas réveillé, je n'avais pas saisi en moi la source spirituelle de l'amour. Tiens, c'est vrai. Tiens, je n'avais pas jamais fait un acte d'adoration complet. Jamais. Personne ne me l'avait dit d'ailleurs. Comment on faisait?
tiens, je me réveille, je saisis plein de choses comme ça. Je cherche la vérité, je cherche à me former. Et une fois que j'ai saisi toutes ces petites choses, je saisis qu'en effet, ah ben tiens, je fais des expériences où je suis totalement rassemblé dans cet acte de vie contemplative, rassemblé dans cet acte d'attraction vis-à-vis de l'autre que j'aime, rassemblé dans cet acte d'unification dans la lumière de tout mon diaphane intérieur, rassemblé en un seul acte dans cette compréhension, cette unification, cette humilité de quelqu'un qui fait partie de la nature, qui est un tout, qui est une toute petite partie de tout, d'un tout qui est naturel. Et donc, il en souffre, il pâtit, mais en même temps, il accepte d'être une petite partie du tout. Et du coup, il est responsable. Ah oui, je suis un être communautaire, je coopère, quelqu'un qui accepte de rentrer dans une très grande coopération avec tous les astres. Coopération, pas ses idées à lui, hein. Pas son inspiration à lui, en disant c'est moi qui ai raison, non, une coopération. Ah oui, j'accepte aussi, bien sûr, de savoir être agréable. L'art permet d'être agréable. Quelqu'un qui n'est pas artiste est exaspérant. Alors du coup, il transforme le monde qui l'entoure, les autres, la communauté, la nature. C'est agréable. Et puis, je vais, dans l'acte d'adoration, me rassembler dans la présence même du Créateur pour entrer dans l'instant éternel de cet acte. Je suis capable de faire ça. Et à chaque fois, je suis, dans chacun de ces actes, quand je fais l'expérience, je suis rassemblé. Je fais une expérience de rassemblement. Cette expérience de rassemblement n'est pas une expérience du taux-haine. De l'un. C'est une expérience spirituelle, d'accord. C'est une expérience subjective, ok. C'est une expérience éventuellement métaphysique, d'accord. Mais ce n'est pas l'expérience de l'un. Qu'est-ce que c'est que l'un? Ah, si je pouvais... C'est l'avantage que nous avons remarqué bien, entre parenthèses, hein, dans le christianisme, c'est que dans le christianisme, si la grâce de Dieu saisit tout notre corps, tout notre cœur, toute notre intelligence, si comme l'eau se mêle au vin, toutes les dimensions qui sont en moi sont là, du Christ réellement présent, vivant, brûlant d'amour. Voyez. Alors, si c'est ça, et que je fais un acte d'adoration vis-à-vis du Père qui fait que nous sommes avec Jésus un seul Fils, voyez. Alors à ce moment-là, oui, c'est vrai que par la grâce et par les dons du Saint-Esprit, je peux faire une expérience, c'est une parenthèse que je fais, parce que je me rappelle qu'on fait de la philosophie. Mais les chrétiens affirment que, ici, dans cette expérience de la grâce, lorsqu'elle est totalement actuée dans un acte d'adoration en esprit, en vérité, les sept dimensions sont actuées en un seul acte. C'est vrai, puisqu'il y a tout le corps mystique, c'est-à-dire toute l'humanité, toute l'Église, qui est présente physiquement dans cet acte. Rassemblée étant la présence de Jésus, que je contemple dans son Verbe, et le Verbe, lui, eh bien, il m'attire dans l'Esprit Saint. Il m'attire vers un autre qui est le Père. Et, vous voyez, il y a, et alors, cette inspiration de l'Église qui consiste à comprendre qu'elle est faite pour transformer le temps et tous les lieux et l'univers tout entier dans la gloire du Créateur, vous voyez, actue tout le point de vue artistique, et etc. Et toutes les dimensions sont là, parce qu'il y a le corps mystique, il y a la transformation de celui qui adore en esprit en vérité, qui est une transformation réelle, substantielle, mystique, vitale, lumineuse, qui se fait, bon... Il y a la dimension, bien sûr, d'adoration, il y a la dimension intérieure, il y a la dimension d'amour, puisqu'il y a une unité, l'amour est victorieux de tout dans cet acte. Et puis il y a la dimension contemplative, puisque c'est le Verbe, la contemplation de Dieu lui-même qui saisit tous les corps qui habitent en moi. Et voilà. Et tout ça, c'est dans l'adoration, c'est-à-dire la dépendance totale du Fils, du Verbe, qui unifie tout ça vis-à-vis du Père. Alors du coup, on se livre à lui et il n'y a plus que l'amour. C'est vrai que cette expérience de l'acte chrétien, parce que ça, ce que je viens de vous faire, c'est un acte de vie chrétienne, rassemble dans toute cette dimension de l'homme dans un seul acte. Est-ce que ça, c'est l'un ? Non. Est-ce que c'est une expérience de l'un ? Non. C'est une expérience de l'unité, peut-être. Vous voyez, quand on parle d'unité entre les chrétiens, d'unité entre les hommes, c'est ça. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'adoration en esprit, en vérité. C'est sûr. L'unité, c'est nous qui la faisons avec la grâce du Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que là ? C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, et je pensais vous en parler aujourd'hui. Et je pensais, mais je vois que je ne vais pas avoir le temps. C'est comme d'habitude, vous voyez, quand c'est à connaître, je commence à connaître la chanson. On verra ça la prochaine fois, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je vous disais la dernière fois. On avait terminé la dernière fois sur la même phrase que je vais vous faire. Si vous vous en rappelez. C'est pour ça que je voudrais vous faire... Vous voyez, ce que je viens de vous faire ici, ce que disent les chrétiens, l'adoration en esprit, en vérité, est une expérience d'unité vivante dans un acte qui implique la grâce, donc pas le point de vue philosophique, mais le point de vue de la surnature, la puissance surnaturelle et théologale de la grâce. C'est une expérience d'unité. Alors qu'est-ce que c'est que là ? Vous voyez, vous sentez bien que dans cette expérience d'unité, on est rentré dans les processions de la très sainte Trinité. Le Verbe dans le sein du Père réalise une unité totale de tout, où l'Esprit. Et c'est moi qui en suis responsable. Bon, ça d'accord. Mais là, vous voyez bien, on est dans la très sainte Trinité. Le Verbe dans le sein du Père pour réaliser l'Esprit Saint. Mais les trois personnes de la très sainte Trinité sont un seul Dieu. Voilà ce que nous dit la tradition chrétienne. Le philosophe peut très bien enregistrer cette formulation de la tradition chrétienne. Les chrétiens disent qu'en effet, je n'atteins l'un que par la médiation intérieure des trois personnes de la très sainte Trinité. Donc revenons à la philosophie. Quand je reviens à la philosophie, je vais dire, mais comment... Si je suis obligé de passer par le point de vue de la grâce, hein, qui est un don, moi je n'ai pas ce don. Hein, celui qui est philosophe, il dit, moi, je suis désolé, je n'ai pas reçu la grâce. Hein. L'union transformante, je n'ai pas. Donc, ici, personne n'est dans ce cas-là, bien sûr, ici, tout le monde reçoit la grâce. Hein, donc, mais comment on fait de la philosophie, il faut respecter. Et il faut respecter, parce qu'en effet... Je pense, moi, que la grâce de Dieu ne peut pas aller jusqu'au bout si je ne vais pas jusqu'au bout de mon humanité pour atteindre l'un directement par mes propres forces, sans la grâce. Parce qu'évidemment, l'alpha, ça c'est l'alpha de la vie humaine. Sinon, l'alpha ne peut pas rejoindre l'oméga. L'oméga, c'est dans le Christ, par la grâce, que rejoint l'un, par la médiation de l'unité trinitaire. Mais déjà, dans la sagesse naturelle, je dis bien naturelle, pas dans la sagesse surnaturelle, qui est celle de la grâce. Dans la sagesse naturelle, je veux toucher expérimentalement l'un. L'un en soi. Ça, c'est la question, j'allais dire... la plus importante que celui qui cherche la vérité, que c'est que l'un. Alors, je tiens à vous dire une chose, voyez, vous commencez à sentir que l'un est tout à fait autre que nous. L'un se cache pourtant quelque part et nous pouvons le toucher, le posséder. Nous le possédons déjà. Mais pour en prendre pleine possession, le toucher et en faire l'expérience, il va falloir qu'on se réveille. Pour se réveiller, il va falloir qu'on se réveille dans les sept dimensions de l'homme. Étant réveillé dans les sept dimensions de l'homme, il va falloir qu'on puisse saisir ce qui unifie les dimensions de l'homme, c'est-à-dire le point de vue de l'être. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Et nous avons saisi à l'intérieur de l'être ce qui structure lumineusement, formellement l'être. C'est, alors je ne reviens pas dessus, on l'a fait l'an dernier, hein. Vous avez des cassettes. Hein. Nous avons regardé ce qui structure de l'intérieur le point de vue de l'être, qu'on le découvre nous-mêmes. Hein. Attention, ça ne se répète pas. Immaturissima mentis, perroquetantes, taisez-vous. Le perroquetage immature, il est prié de se taire. Vous le trouvez vous-même, par l'induction, qu'est-ce que c'est que la substance? C'est-à-dire, de l'intérieur, l'existence, et je touche dans le point de vue de l'être, la substance. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Hein. Bon, vous avez, deuxièmement, je saisis le point de vue de l'énergeia. L'énergeia. Pas l'énergie, hein. L'énergeia, c'est l'acte. Ce qui structure de manière finale, ultime, ce que l'existence est à l'intérieur d'elle-même quant à la finalité métaphysique. Et mon intelligence est capable de saisir ça. Alors il se trouve que l'être soutient les sept dimensions de l'homme. Hein. Soutient. Donc le préliminaire évident, que vous sentez bien, n'est-ce pas ? Le préliminaire évident à la découverte de l'un, c'est de pouvoir pénétrer dans le point de vue de l'être pour pouvoir, à l'intérieur de ce qui structure de l'intérieur le point de vue de l'existence, de l'être, comme deux pinces, saisir, se rapprocher d'une des propriétés de ces deux principes que j'ai saisis. Et ça risque peut-être d'être là. C'est dans cette direction-là qu'on va aller, encore que je ne vais pas insister, bien sûr, sur l'énergeia et sur l'ousia la prochaine fois. Mais vous sentez bien que si je vais plus loin que l'énergeia et l'ousia, qu'est-ce que je peux faire en allant plus loin que l'énergeia et l'ousia? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller à la source de tout ce qui existe, de tous les êtres. La source de tous les êtres, c'est, comprenez, celui qui est incommunicable, c'est l'être qui est incommunicable, c'est l'être qui est sans composition. Nous, notre être est composé d'âme, de corps, d'esprit, de, etc., de bêtises et compagnie. Mais il y a un être qui est non composé, sans aucune composition, indivisible. Vous voyez ? Absolu. Et donc, je vais saisir assez vite que j'ai l'intuition, grâce à la métaphysique, ce n'est qu'une intuition, grâce à l'induction de l'ousia et de l'énergeia, je saisis intuitivement que l'un existe. C'est une intuition. Au départ, c'est qu'une intuition. Et moi, ce que je voudrais avec vous cette année, c'est que vous puissiez en plus prendre une voie d'accès pour pouvoir, non pas, aller plus loin que l'intuition de l'un, et pour pouvoir saisir l'un en soi. Celui qui est... Oui. Ne dites pas c'est Dieu, hein. Attention, hein. Achtung, Achtung, Achtung. C'est une propriété de l'être. Une propriété, c'est pas Dieu. Hein. C'est un avoir. Hein, si j'ai une propriété, ça, je le pose, c'est un avoir. Je vous dis tout de suite, c'est pour que vous ne déviez pas. Hein. C'est pour ça que les gens qui mettent l'absolu dans l'inhabitation, la découverte, la possession, etc., de l'un, eh bien, ils vont dériver. Et si vous voulez savoir tout de suite, je vais vous dire immédiatement qui sont ceux qui mettent toute leur métaphysique. Si c'est la métaphysique de l'un, c'est qui ? Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle les ésotéristes, les alchimistes, les gnostiques, les, vous savez, les frères trois points là. Tout, tout, tout. Curieux ça, hein ? Trois points. C'est ça. Tout leur mystique est basé sur le fait que l'un est la substance.
de toute chose, alors que ce n'est qu'une propriété. Un des premiers philosophes très anciens, c'est un ermite. C'est pour ça que je me suis dit, je vais leur parler. C'est un ermite, il s'appelle Héraclite. Héraclite, c'est un ermite extraordinaire, c'est un ermite grec, qui a précédé Socrate, hein, qui a précédé Aristote, qui a précédé Platon. C'est le premier philosophe, c'est le premier qui essaye de dire qu'il faut chercher, toucher, atteindre l'un. Et que ça, c'est la chose. Il dit, vous voyez, mettez-vous au bord d'un fleuve. Regardez le fleuve qui passe. Mettez-vous au pied d'une cascade. Une grande cascade de 20-30 mètres de haut. 50 mètres de haut, chute du Niagara. Ou une petite, dans un jardin de ville. Vous voyez, restez là. On est tellement éclatés. Vous voyez, le pot se casse tout et tout. Mettez-vous là et écoutez le bruit de l'eau. Regardez. L'eau qui passe. C'est jamais la même eau. Regardez le fleuve, l'eau passe. C'est jamais le même fleuve. C'est toujours dans le fleuve, c'est jamais le même fleuve. Panta, rei, tout change. Et à force de rester là, pendant des heures, vous voyez l'ermite, pendant des heures, vous voyez que tout passe. La multiplicité cache l'un, l'unité. Et vous ne pouvez pas ne pas en avoir l'intuition, vous voyez. Joignez tout, bouddhisme. Et non tout, moi. Joignez le concordant et le discordant, le consonant et le dissonant. Et de toute chose, un, et de un, toute chose, joignez ensemble, un et le même, vie et mort, veille et sommeil, joignez ensemble jeunesse et vieillesse, car ceci se change en cela, et cela se change en ceci. Joignez tout, n'écoutez pas, ni l'un ni l'autre, écoutez l'un, car il est sage d'homologuer toutes choses. Homologuer, c'est-à-dire, dans la sagesse, de rassembler dans le soubassement de l'un. Homologuer. Homo, c'est un. Tout est un, parce que panta rei, tout change. Car la sagesse est une. La loi est une. Obéir à la volonté de l'un est l'un. Et toutes les voies humaines se nourrissent de l'un, de l'unique loi divine, car l'un les dépasse toutes. Vous voyez, pas mal pour un philosophe athée. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça de là ? Vous voyez, cette espèce de dès qu'on est dans une non-adoration métaphysique vis-à-vis du Créateur, on rentre dans la mystique de l'un. C'est pour ça que, vous voyez, il faut sentir ce que c'est avoir ce sens de l'un est quelque chose de très important pour nous. De très important. Non pas pour qu'on n'en vive pas, mais pour qu'on puisse joindre précisément l'un, qui est l'avoir suprême de l'homme, et l'être, qui est sa dignité, sa vocation, et sa substance, et son acte. De manière que, avec ces deux, nous puissions nous unir en donnant. Parce que si nous n'avons rien, nous n'avons rien à donner. Et nous ne nous donnerons pas nous-mêmes. Donc il est important d'atteindre l'un. Mais il est important aussi de comprendre que ce n'est pas l'être. Vous voyez ? C'est pour ça que la métaphysique de l'un est quelque chose de très important pour nous, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez. Bon. Alors, on va dire, attends. Alors, un autre passage. Il faut sentir petit à petit, j'espère petit à petit, à la fin de l'année, on arrivera à saisir. Hein, parce que c'est petit à petit, je suis comme vous, hein, je cherche. Nous cherchons ensemble. Ah, bon. Allez, on va laisser tomber, on verra ça la prochaine fois. Ça, on verra ça la prochaine fois. Et on en verra les choses la prochaine fois. La question Aristote, livre bêta des métaphysiques d'Aristote. La question la plus difficile. Alors attends, Aristote, c'est vraiment le maître suprême, hein, toute la sagesse occidentale. Ça, tout le monde, Hegel, Glucksmann, Kant, MDP, PPP, Aristote, Saint Thomas d'Aquin, Aristote. Tout le monde est d'accord que Aristote, c'est vraiment le grand, celui qui fait gagner le plus de temps. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? La question la plus difficile et la plus nécessaire pour connaître la vérité, c'est de savoir les rapports entre l'être et l'un, entre l'un et l'ousia, entre l'être et l'ousia. C'est ça le problème le plus difficile, et ce qui libère en nous la capacité d'être au-dessus de toutes les idéologies, cette découverte de la différence qu'il y a entre l'être, voyez, qui nous vient directement de la Créateur de Dieu, et de l'un qui est une propriété, qui est un don, qui est un avoir. Donc la recherche de l'unité, pour elle-même, eh bien, c'est une trahison. La recherche de l'être pour elle-même, c'est aussi, peut-être, une imperfection. Vous voyez ? Parce que pourquoi ? Parce qu'il faut lier les deux pour les dépasser dans l'amour éternel et dans le don. Mais c'est ce que nous verrons. Nous verrons ça, vous voyez ? Ça, c'est quelque chose qui est très important, vous voyez, à comprendre. Parce qu'il faut arriver à saisir en nous ça. À saisir en nous cette difficulté que nous avons. À y voir clair, et à ne plus prendre pour argent comptant ce qui nous paraît pourtant à première vue évident. Il y a des évidences qui sont. Il faut ce discernement très fondamental, vous voyez, parce que pour qu'on puisse quand même avoir la noblesse, quoi, d'une intelligence qui s'est réveillée, quoi. À ce moment-là, le cœur peut aller jusqu'à son fondement, jusqu'à sa racine. À ce moment-là, le corps peut devenir spirituel. À ce moment-là, comprenez, l'intériorité est véritable, elle va jusqu'au bout d'elle-même. À ce moment-là, on peut être uni avec les autres, réellement, et coopérer. À ce moment-là, oui, il peut y avoir une énosis, une pacification, voyez. Ça, c'est sûr. Il n'en faut pas beaucoup pour. Pas besoin que sur 6 milliards d'êtres humains, il y en ait de 50%. Ce n'est pas la démocratie. Hein. Du côté de l'un, il n'y a pas de démocratie. C'est la monarchie. Dès lors que vous serez dans la conquête de l'un parce que vous serez dans votre être et que humainement vous êtes réveillé, ça y est, c'est par l'intelligence qu'on y arrive. Et par l'amour, après. Par l'adoration, pour y rester. Par l'intériorité, l'horizon, pour y croître. Alors, à ce moment-là, vous voyez, oui, on n'est plus dans la démocratie, on est dans la monarchie. Vous voyez, parce que vous aidez, sans même qu'ils s'en rendent compte, et sans même peut-être que vous en rendiez compte, c'est la pyramide même de vos frères. Il faut que nous soyons chacun pour tous les autres, comme dans cette espèce de sagesse royale. Et ça, c'est la condition sine qua non pour que nous, chrétiens, nous puissions recevoir la grâce du Christ dans une humanité qui va recevoir la grâce du Christ pour elle-même, mais dans une humanité réveillée, une humanité unifiée en elle-même, vous voyez, donc qui va donner l'humain, qui ne va pas donner quelque chose de tordu, qui va donner de l'humain, vous voyez, et tout ce qui, et qui sera, aura pleine conscience de ce qui a pénétré en elle, de contraire, pleine conscience. Parce que l'intelligence vous fait découvrir l'un, c'est une chose, mais elle ne vous guérit pas. Vous êtes lucide, certes, mais n'êtes pas guéri pour autant, vous êtes toujours aussi fêlé. Alors, mais au moins, je sais ce que je donne. Et du coup, la grâce du Christ peut pénétrer, relever et nous transformer, comme dit Saint-Père, en fusée du Saint-Esprit, en bombe atomique. En bombe atomique. Dès que vous êtes avec l'un, l'un c'est quoi? C'est le bouton. Vous appuyez sur l'un, déflagration du mal. C'est pour dire, tout se calme. Hein. Bombe atomique. Extraordinaire. À ce moment-là, on appelle le Christ. Et puis c'est tout. On ne s'occupe que de ça. Oui. Ça c'est l'application, c'est pour dire, vous voyez, qu'on ne perd pas du tout son temps à faire que notre intelligence s'éveille, s'approfondisse, que notre capacité d'accueil, du coup l'intelligence c'est ça, la capacité d'accueil de l'autre qui est proche de nous, s'élargisse, aller jusqu'au bout d'elle-même. Alors à ce moment-là, oui, c'est vrai, la grâce, Jésus, l'Immaculée Conception. Transubstantiation eucharistique, la transformation de l'âme, la glorification du Père, les dons du Saint-Esprit pour en pénétrer, et aussi la rédemption. Et c'est pour ça que l'Église tient tellement à ce qu'on fasse de la philosophie. Vous voyez, pas du tout. Et sinon, qu'est-ce que vous ferez? Tu bénis, puis c'est tout. Grenouille de sacristie, vous allez courir derrière des oies. Et puis vous allez couler en fumier, automatiquement, dans le mystico-dingo, à tous les coups. On ne connaît pas beaucoup d'exceptions, vous savez. Moi, j'en connais pas trop. Pas tomber dans le mystico dingo, hein. Alors là, pas ici, hein, sinon, mon Dieu, sinon. Ah non, mettez toutes vos billes, d'accord, dans la recherche de la vérité. Voilà ce que le Saint-Esprit demande à l'Église d'aujourd'hui. Il demande ça. Il a choisi un pape philosophe, la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2000 ans, un pape philosophe. Pourquoi? Parce que si tu te précipites sur les apparitions, sur les manifestations, sur les révélations, sur les écritures automatiques, sur Jésus m'est apparu, j'ai eu un rêve qui était... Alors tu vas te transformer en bouton de pernuche, tu vas suivre la première apparition, puis il y a une autre apparition, plus une autre apparition, hop, une troisième apparition, vous allez en mettre... Comprenez? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais il ne faut pas être dingue, je veux dire. Non, il faut retrouver le sens de l'adoration. Et être spirituel, contemplatif, amoureux, corporel. Ah, voilà, très bien, oui. Et puis vivre des sacrements, être dans le corps mystique de l'Église. Alors là, ces critères, c'est l'obéissance absolue à l'évêque, au prêtre, au pape. Ça, incontournable. Moi, je vous le dis, hein, si jamais on me dit, là, Père Patrick, c'est fini votre coupe de Montpellier, là. Hein? Je ne discute pas. Je ne veux pas discuter. Je ne veux pas discuter. Ça passe au-dessus de tout, ça. Même si j'ai une apparition, hein. Même si Jésus m'apparaît en disant, Père Patrick, tu leur fais tellement de bien. Je t'envoie en mission. C'est au-dessus des apôtres, au-dessus des apôtres, au-dessus des supérieurs, va, c'est moi qui t'envoie. Dis, Seigneur, permettez que je trouve un petit peu d'eau bénite. Mais enfin, c'est la doctrine infaillible de l'Église. Ça c'est sûr, c'est les petits couplets de la fin, parce que faut toujours un petit couplet chrétien quoi sur la fin. Quand même, attention. Ah non, moi je suis infaillible, hein, je suis infaillible. Hein. Ah oui. Ça va pas, non? Bon, faut faire attention, hein. Faut pas forcer les gens. Il faut soi-même essayer de trouver cette voie, chercher la vérité, adorer son Créateur, être source d'amour, et se transformer dans l'unité totale avec tous les autres. Ça oui. Vous voyez? Et puis donc, on verra donc la prochaine fois. On essaiera de voir. Je voudrais avec vous la prochaine fois, j'espère que je respecterai ce programme de la prochaine fois. Je ne verrai pas comment, on le fera une autre fois suivante encore, comment la différence qu'il y a entre la très sainte Trinité et l'unité, n'est-ce pas? Déjà en Dieu. On verra une autre fois ça, pas la prochaine. La prochaine fois, ce que je voudrais avec vous, c'est regarder la différence entre la conception d'Héraclite, vous voyez, la conception de Platon, la conception de Plotin, la conception d'Aristote, sur l'un. Pour qu'on puisse repérer aujourd'hui, voyez, les choses qui sont semblables dans notre comportement quotidien, à nous, voyez, qu'on puisse repérer où est-ce qu'on est aristotélicien dans cette histoire, là où est-ce qu'on est platonicien, plotinien, voyez, là où se trouve, voyez, vous voyez, c'est ça que j'aimerais avec vous, qu'on sente, alors ce ne serait pas pour nous au fond, ce serait de repérer. Ce serait une technique de repérage la dernière fois que j'aurais le souci, la prétention, le plaisir, non, l'objectif, que je voudrais tellement arriver à faire avec vous la prochaine fois, de manière qu'après on puisse démarrer, voyez, qu'on puisse démarrer, et puis qu'on puisse essayer de voir maintenant, après, donc comment essayer donc nous-mêmes de réaliser ce que ça représente en nous, pour nous, autour de nous, etc., concrètement, si vous voulez. Mais en même temps, quand je dis concrètement, c'est au sens philosophique, hein, donc c'est au sens de l'expérience métaphysique. Hein. Voilà. De manière à ce qu'on ne puisse pas jamais s'arrêter à l'un. L'un, c'est l'avoir suprême. Vous voyez? Alors, donc c'est... On va voir ça. Et puis après, éventuellement, on pourrait du coup faire, c'est un petit peu dans le reste de l'année, printemps, parce que là on est dans l'automne, donc au printemps, ce qu'on essaierait de voir, c'est comment se réalise la descente de l'un, la réalisation de l'un dans l'édification de la personne humaine. Voyez. Et qu'est-ce que c'est au fond qu'une personne, puisque personne c'est le rayonnement de l'un dans l'être de l'homme. Et ça, c'est des choses, d'en prendre conscience, c'est excellent, parce que du coup, on n'inverse pas. Et en n'inversant pas, vous voyez, notre finalité souvent, pourquoi est-ce qu'on est paumé? Parce qu'on a une finalité, mais elle est inversée. Alors du coup, on va dans la direction opposée. Okay. Ce manque de lucidité fait qu'on perd énormément de temps. Donc, une fois qu'on a resitué ces principes, j'allais dire, de finalité absolue, dans l'ordre, voyez, le fait qu'on soit contemplatif, c'est que, du coup, on se remet dans l'axe d'une finalité et on ne perd plus de temps. Voyez. Et du coup, la grâce, quand elle intervient sur nous, eh bien, à ce moment, elle peut faire son travail. Elle peut réaliser ce qu'elle signifie et ce qu'elle porte comme puissance de fécondité divine, voyez. Je crois que c'est ça le but. Bon. Maintenant, on va essayer, hein. On va essayer. Moi, je suis comme vous, hein. Je suis nul, hein. Donc, on travaille, on tâtonne. Alors, on va beaucoup prier, et puis on va demander aussi au Seigneur de nous réveiller dans l'acte d'adoration quotidien et dans l'union totale avec Dieu. Allez.